Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous.
Croyez-vous que les médias ont une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bonjour et bienvenue à La Faute aux médias en cette belle journée ensoleillée du 4 août 2016. Aujourd'hui à l'émission, c'est moi, Camila Rodriguez CA, qui votre habituelle régisseuse, qui s'occupera de l'animation. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est, vous l'aurez deviné entre mille, les Jeux olympiques de Rio. À moins de 24 heures de la cérémonie d'ouverture, pour nous, c'était un incontournable. On va commencer tout de suite l'émission avec Francis Huot. Cette semaine, tu vas nous parler de la place de la Corée du Nord aux Jeux olympiques de Rio et plus globalement, des compétitions sportives comme outil de propagande.
Oui, merci Camila. On connaît tous la place et le contexte dans lequel évolue la Corée du Nord sur la scène géopolitique mondiale, c'est-à-dire entre autres que c'est un pays qui est plutôt renfermé sur lui-même. Ses habitants ont peu ou carrément pas de contact avec le reste du monde. Mais dans un contexte comme celui des Jeux olympiques, il est quand même intéressant de voir comment se comporte la Corée du Nord. C'est pas mal le seul moment où ce pays-là peut interagir avec le reste du monde et vice-versa. Donc il y a une sorte de mythe, je dirais, autour de la Corée du Nord, notamment parce qu'on connaît à peu près rien du mode de vie de ses habitants et habitantes. Donc les frontières sont complètement hermétiques, mais les Jeux olympiques sont quand même une bonne occasion pour nous d'en connaître un petit peu plus sur ce pays-là. Je lisais un article dans la presse qui est paru la semaine passée dans lequel on parlait justement de la place de la Corée du Nord aux Jeux olympiques. Il y a plusieurs trucs intéressants qui ont attiré mon attention dans cet article-là.
Puis on pourra le publier plus tard sur la page Facebook, l'article de La Faute aux médias. Mais il faut dire que le leader nord-coréen, lui-même, c'est un grand fan de sport.
Oui, effectivement, Kamla. D'ailleurs, l'ex-joueur de la NBA, Dennis Rodman, avait visité Kim Jong-il en Corée du Nord en 2013. Donc, les résultats de la Corée du Nord en compétition internationale sont quand même pas très bons. Ils ont gagné seulement 4 médailles d'or aux Jeux olympiques de Londres en 2012, dont 3 en haltérophilie et 1 en judo, et seulement 14 depuis qui participent aux Jeux olympiques, donc en 1972 à Munich. Mais à mon avis, là où l'analyse de l'olympisme en Corée du Nord devient intéressante, et notamment pour des férus de communication politique comme nous, c'est quand on observe à quel point les résultats sportifs de la Corée du Nord ont une importance stratégique au plan diplomatique, ou du moins c'est ce que le gouvernement nord-coréen pense. Donc des sommes d'argent assez importantes, surtout si on considère le PIB du pays puis les conditions de vie assez difficiles de la population nord-coréenne, sont investis pour développer le talent de jeunes prodiges du sport là-bas. Dans l'article justement de la presse dont je vous parlais tantôt, le spécialiste de la Corée du Nord à l'université Macquarie en Australie, Andre Abrahamian, explique que le pays est bien placé pour former des athlètes de haut niveau, notamment en raison de l'extrême structuration de la société nord-coréenne, qui met davantage l'accent sur des activités organisées. Donc, pour paraphraser, le contrôle extrême qui est exercé par l'État sur la population de la Corée du Nord aide certainement à structurer le développement sportif du pays. Donc, les jeunes sont sélectionnés à un très jeune âge et l'État investit de l'argent et du temps en eux pour en faire des athlètes de haut niveau qui, le gouvernement l'espère, pourront faire rayonner la Corée du Nord dans des compétitions sportives internationales.
Donc, il y a des efforts qui sont faits pour améliorer les résultats sportifs de la Corée du Nord, c'est ça que je comprends.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'argent qui est investi. Il y a des complexes d'entraînement neufs qui sont construits depuis que Kim Jong-il a pris le pouvoir en Corée du Nord. Il y a des jeunes sportifs qui sont triés sur le volet à partir d'un très jeune âge pour être développés ensuite pendant des années. Donc, la Corée du Nord semble vraiment s'être engagée à long terme pour développer une structure sportive de haut niveau. Mais si on garde en tête l'objectif principal du leader nord-coréen, qui est de redorer l'image qu'ont du pays, non seulement la population locale, mais surtout le reste du monde, je me demande jusqu'à quel point ça fonctionne.
Ouais.
Il y a des techniques de propagande semblables qui étaient utilisées, entre autres à l'époque de la guerre froide par l'URSS et les États-Unis, par exemple. Puis encore aujourd'hui, des pays comme la Chine et le Brésil, justement qui sont les hôtes des Jeux olympiques, Francis Therrien va en parler tantôt, Puis aussi la Russie avec le scandale de dopage systémique dont on parle beaucoup dans les médias dernièrement, qui tente de faire de la propagande avec le sport. Donc c'est pas un secret pour personne que les États investissent autant dans le sport pour des raisons entre autres de communication et de propagande. Le patriotisme atteint des niveaux inégalés pendant les Jeux olympiques. Au Québec, par exemple, en fait, moi, je vois rarement autant de fierté canadienne que pendant les Jeux olympiques. Tout le monde est fier d'être canadien.
Oui, beaucoup plus que le 1er juillet.
Oui, c'est ça. Mais donc, de penser comme les dirigeants de la Corée du Nord qu'une propagande aussi peu subtile que de tout simplement investir plein d'argent dans le développement du sport... je trouve que c'est assez archaïque de penser que des techniques comme celle-là peuvent avoir un impact stratégique, comme ils disent eux-mêmes, sur la diplomatie puis la vision qu'ont les gens de la Corée du Nord.
Difficile de mettre subtilité et Corée du Nord dans la même phrase.
Oui, effectivement.
Merci, Francis. De ton côté, Francis, t'es rien. Avec toutes les crises qui secouent le Brésil en ce moment, on se demande pourquoi Rio a accepté les Jeux olympiques. D'après toi, qu'est-ce qui justifie ce choix-là?
Ben en fait, faut se rappeler que Rio s'est présenté aux Jeux... la candidature de Rio a été retenue pour les Jeux olympiques il y a 7 ans, en 2009. Rio a gagné contre Chicago, Madrid, et Tokyo. Rio faisait partie des candidats. Puis dans ce temps-là, en 2009... ça allait, somme toute, ça allait pas, je dirais pas que ça allait parfaitement au Brésil, mais ça allait mieux qu'aujourd'hui. Il venait de recevoir le championnat mondial de la FIFA. Puis tout ça s'est mieux passé, c'est dans une cohésion nationale un peu plus grande, parce qu'il y avait des matchs partout à travers le pays, non seulement à Rio.
Mais on s'entend que c'est surtout, d'après moi, à cause que c'était des matchs de soccer, principalement.
Peut-être que le facteur latino et soccer faisait partie des choix, des raisons, mais non. Puis le Brésil, en fait, souhaitait se montrer un grand leader sur la scène internationale, donc c'est pour ça qu'ils ont posé leur candidature. Mm-hmm. Et pour le comité olympique... faut alterner les continents, donc il y a eu probablement un choix stratégique qui a été fait. Mais là, en ce moment, on dit qu'il y a des crises. Ça, faut quand même aussi dire qu'il y a, deux mois des Jeux, il n'y avait rien de prêt. À Montréal non plus, deux mois avant les Jeux olympiques, quand on les a reçus, il n'y avait rien de prêt. Donc, il y a des crises, il y a eu un choix peut-être qu'on peut questionner. Mais on va voir demain à quel point Rio va nous surprendre ou non.
Oui, mais c'est pas la première fois qu'un pays hôte a des problèmes. Qu'est-ce qui différencie ces Jeux ou les Jeux d'avant, ou est-ce qu'il y a eu d'autres crises, comme par exemple Pékin?
Oui, une des différences qui est ressortie par les chroniqueurs sportifs ou même les chroniqueurs politiques qui observent la scène au Brésil, c'est que par exemple à Pékin, il y avait des problèmes de droits humains, mais la construction du stade... les gens, il y avait eu un nettoyage clairement, mais la sécurité de la ville n'était pas un problème. Il y avait un seul problème, c'est les droits humains. C'est quand même un problème important.
Quand même.
Mais il n'y avait pas les crises qui se répétaient une après l'autre. À Athènes, les infrastructures n'étaient pas du tout prêtes, mais il n'y avait pas les autres problèmes, pas à ce moment-là, en Grèce, sur l'économie. Au Brésil, il y a la crise du logement, les favelas, la sécurité du village olympique, les infrastructures qui ne sont pas construites. Puis, ben là, la présidente, l'ancienne présidente, il y a eu un impeachment contre elle en mai. Donc, c'est une accumulation de problèmes. Puis, pour beaucoup de gens, c'est un peu plus apeurant que les autres problèmes qu'on a connus pour les Jeux olympiques.
Je peux comprendre. Donc, en gros, comment est-ce que tu résumerais la situation politique au Brésil?
Ben, dernièrement, il y a eu les 5 derniers mois de croissance ont été, les 5 derniers trimestres de croissance ont été des croissances négatives, donc plus en plus basse de la croissance, mais de moins en moins importante. Comme je le disais, la présidente Dilma Rousseff a été destituée par le Sénat. Puis ça aussi, c'est un élément intéressant, c'est que tout de suite après les Jeux olympiques, les journalistes qui sont pas seulement des journalistes sportifs pourront se rendre à Brasilia, comme le lendemain de la fin des Jeux olympiques, suivre le procès sur l'impeachment de Dilma Rousseff.
On fait d'une pierre deux coups.
Ouais, donc ça dit à quel point le pays est en ébullition.
Ouais.
Puis, ben, justement, il y a l'autre côté qui dit, ben, on a reçu les championnats du monde de la FIFA il y a quelques années, donc on va être capable de recevoir les Olympiques. Il y a des gens qui disent, on va voir les effets positifs plus tard, comme on les a vus pour la FIFA. Mm-hmm. Mais il y a d'autres gens qui disent aussi, il n'y a pas juste Dilma Rousseff. Il y a la corruption qui date depuis des années. Il y a eu des affaires de corruption en 2014, bien avant. L'ONG Transparency International dit que plus de 60% des députés brésiliens font face à des procédures ou à des condamnations judiciaires face à la corruption. Il y a eu des grandes manifestations dans les rues de Rio. Les favelas, il y a eu des polices de pacification qui sont en fait vues par plusieurs, des polices très violentes, juste pour s'assurer que les gens qui habitent dans les favelas restent dans les favelas.
Mais j'ai même vu sur Internet une initiative aussi de peindre les favelas, de les peindre avec des belles couleurs pour les
gens. Du street art sur les favelas.
Oui, mais en tout cas, ça a pas l'air très grassroots, à mon avis, si on me demande.
Non, c'est juste pour que les touristes puissent faire des Instagram lorsqu'ils vont aller au jeu. Mais donc, c'est ça. Pour résumer, pour faire court, il y a plein de crises qui secouent le pays, autant politique qu'économique, de corruption, des problèmes sociaux. Donc, ça, c'est la situation au Brésil. Peut-être que les Jeux olympiques vont réussir à tout mettre les Brésiliens ensemble, ce qui serait étonnant. Mais après les Jeux olympiques, même si tout le monde se remet ensemble, je pense qu'il y a des gens qui suggèrent une nouvelle constitution, des nouvelles élections pour calmer les ardeurs, parce qu'il va avoir du travail à faire même après les Olympiques.
Effectivement. Merci, Francis. On se retrouve après une pause musicale avec une entrevue d'Émilie avec un membre d'Équipe Canada. Donc, ça va être très intéressant. Restez avec nous. Pour le moment, on a un DJ à la photomédia qui a un sens de l'humour très particulier. Et donc, je vais vous passer la chanson « Moins 40 degrés Celsius » de Montréal, « Moins 40 degrés » de Malajub. À tout de suite. De retour à l'émission, c'était Montréal moins 40 degrés Celsius.
J'ai déjà plus froid.
De Malajube. Et cette semaine, Émilien, fantastique renversement de situation, je t'anime et tu chroniques et t'as un invité aujourd'hui.
Écoute, on pourrait peut-être, on va peut-être y prendre goût à cette, cette nouvelle façon de faire. On verra ça plus tard. Donc c'est ça, aujourd'hui on accueille dans nos studios Daniel Loureiro, qui est diplômé de l'Université de Montréal en communication et politique. Donc c'était un peu naturel d'aller vers lui parce que nous aussi on est tous des étudiants en communication et politique, mais ici à l'UQAM.
C'est une secte,
c'est ça. Et puis il est aussi titulaire d'un certificat en journalisme et il travaille comme de raison pour Équipe Canada, plus spécifiquement dans l'équipe des médias numériques. Donc tout d'abord, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Je sais que tu dois être pas mal occupé ces temps-ci.
Oui, un peu. Mais ça fait plaisir d'être ici avec vous.
Merci beaucoup. Donc, en quelques mots, en quoi est-ce que ton travail consiste auprès d'Équipe Canada?
En bref, c'est d'écrire des articles sur le site olympique.ca pour ensuite les republier à travers les médias sociaux, que ce soit Twitter, que ce soit Facebook, et aussi utiliser le compte Instagram et Snapchat.
Donc, tu fais de la rédaction d'articles, puis ensuite tu les republies sur les médias sociaux. Exact. D'accord. Donc, on a parlé plutôt à l'émission que les Jeux olympiques, c'était des outils de légitimation des pouvoirs des grandes puissances. Donc, on sait que c'est des événements internationaux où tout le monde veut un peu tirer son épingle du jeu puis promouvoir leurs propres intérêts. Donc, j'aimerais t'entendre un peu là-dessus, parce qu'évidemment, toi, tu participes à la publication de messages, sur les réseaux sociaux et tout ça. Quel serait le message politique du Canada à travers les médias sociaux, à travers cette participation-là aux Jeux olympiques?
Je dirais, le message fait surtout à l'interne au Canada. C'est vraiment un message de patriotisme. Tu sais, on a nos querelles internes au Canada, comme on a toujours eu. Puis ce message-là, il de vraiment essayer aussi de régner un peu à travers le monde. Bien sûr, il y a des éléments différents à travers les Jeux olympiques, que ce soit maintenant ceux-ci ou encore plus accentué quand on reçoit les Jeux olympiques, comme ça a été le cas à Vancouver en 2010. Ou est-ce que là, notre message était encore plus gros? C'était vraiment la poursuite de l'excellence. C'est vraiment ça le message. Et le Canada, c'est ça. En ce moment, on vise 19 médailles. Bien entendu, on sait que les Jeux d'été, c'est moins un fort pour Équipe Canada. On est vraiment un pays nordique, donc les Jeux d'hiver, c'est notre spécialité, on va le dire comme ça. Et notre message est dirigé vers ça. C'est vraiment un message de la poursuite de l'excellence, un message de cohésion nationale et un message 100% patriotique.
C'est ça, parce que chaque pays a son propre message patriotique, a ses propres objectifs. On parlait plutôt dans l'émission de la Corée du Nord, par exemple, qui... c'est pas tant, on avait comme conclu, c'était pas tant un message au monde, regardez comme on est bon, comme nos athlètes sont bons, comme on est un pays où ça va bien au final, mais c'était plutôt un message même de propagande intérieure.
Oui, donc, exactement, pour la population locale, pour montrer que la Corée du Nord peut compétitionner avec d'autres puissances étrangères.
C'est ça, donc là ce que tu es en train de nous dire, c'est que, oui bon, il y a tout l'aspect de l'excellence à l'international, mais il y a aussi cet objectif-là. Est-ce que c'est un objectif avoué? Est-ce que c'est vraiment très, très clair ou c'est juste...
C'est par la bande. Ça arrive parce qu'on a une cohésion nationale puis on est fiers de nos athlètes, surtout parce que chaque athlète, particulièrement au Canada, où est-ce qu'on est un très vaste pays, chaque athlète a une petite histoire à raconter. Chaque athlète vient d'un petit... j'allais dire patelin, mais c'est vraiment ça. Là. Chaque athlète vient d'un petit coin du Canada qui fait en sorte que il y a une histoire à raconter, c'est une belle histoire qu'il faut suivre, que ce soit José Bélanger qui vient de Quaticook, que tout le monde se réunit dans le gymnase hier pour écouter le match de l'équipe canadienne féminine à Quaticook. C'est toutes ces histoires-là qui font en sorte qu'il y a quelque chose en dedans de ceux qui adorent le sport au Canada. Là, on va se dire, il y a des gens que ça passe à côté d'eux, les Jeux olympiques, mais tu sais, de ceux qui aiment le sport font en sorte qu'ils sont réunis alentour d'un moment qui est un message qui par la bande devient patriotique, mais qui est aussi un message qu'on veut porter une excellence à travers le monde. Le Canada est un pays, on peut le dire ainsi, là, une puissance mondiale, que ce soit dans le sport ou que ce soit ailleurs, là, c'est quand même un pays du G7. Donc, on croit en ce moment-là que c'est un pays qui peut, qui a une excellence mondiale à prouver, que ce soit dans le sport ou dans autre chose.
Là. Oui, c'est comme une espèce de propagande douce, là, si ouais, je peux me permettre l'expression.
si on veut, là.
Puis j'aimerais t'entendre aussi quelques petits mots. Là, tu parlais des valeurs olympiques qui étaient véhiculées dans le message. Tu parlais on avait discuté un peu avant l'émission, du dopage, de l'histoire de dopage en Russie, tout ça, j'imagine que la perspective est différente en ce moment pour les Russes, justement.
Oui, la perspective est extrêmement différente. Je trouve que nous, au Comité olympique canadien, en tout cas, on pense que le CIO a pas mis ses culottes, là. Puis c'est un peu ça qui est arrivé. C'est un dopage d'État. Donc, c'est quand il y a eu... j'allais dire le KGB, là, mais c'est plus ça le nom, là, mais, mais c'est quand il y a des manigances comme ça qui font en sorte qu'on retire des échantillons puis qu'on est capable de revisser le bouchon tel quel comme s'il avait été scellé. Il y a des trucs qui sont un peu trop étranges pour que ça soit pas vrai. Mm-hmm.
Est-ce que les querelles internationales extérieures aux Jeux olympiques sont un peu représentées aussi dans cet événement-là d'une autre façon?
Malheureusement, je te dirais que oui, là. C'est ce qu'on voit à l'international, mais c'est un peu ça que le CIO a pas voulu faire. C'est pas vouloir brasser trop la cage d'une puissance mondiale qui est la Russie. Bien sûr, c'est des athlètes qui ont toujours hautement performé aux Jeux olympiques, encore plus à Sochi, là. Si vous remarquez les Jeux de Sochi, c'est quelque chose qui est complètement hors du commun, là. Ce qu'ils ont fait à Sochi, ça n'a aucun sens. Puis, tu sais, déjà, les athlètes canadiens, quand ils revenaient à l'époque, nous disaient, c'est sûr qu'il y a des athlètes dopés ici. Tu sais, c'est pas normal qu'Alex Harvey finisse, mettons, cinquième en ski de fond aux Jeux olympiques, puis que les trois premiers, c'est trois Russes, qui ont fini 7, 8, puis 14e toute l'année en Coupe du Monde. Tu sais, il y a quelque chose ici qui était totalement anormal, puis que malheureusement, ça reflète pas les valeurs olympiques qu'on discutait plus tôt avant l'émission. C'est, le dopage n'est pas ça. Puis au Canada, on a eu nos scandales de dopage par le passé, mais c'est pas les valeurs que les fédérations, et autant les athlètes n'ont pas ces valeurs-là quand ils pratiquent le sport.
Donc c'est ça, toi, à travers les médias, tu véhicules ce message-là qui est un peu qui est assez généralisé là, dans l'organisation, mais aussi qui entoure tout l'événement des Jeux olympiques, de promouvoir les valeurs d'unité, puis les valeurs d'intégrité qui veulent être transmises par le Canada. Mm-hmm. Je te remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission. Donc, je le rappelle, nous avions Daniel Loureiro qui est en fait, qui travaille pour Équipe Canada dans l'équipe des médias numériques. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission.
Plaisir.
Donc, on se retrouve tout de suite.
De retour à la photomédia, Daniel, si tu veux te joindre à nous, t'es le bienvenu pour notre segment de discussion. Puis, j'avais préparé quelque chose, j'aurais aimé ça le montrer en onde. C'est justement la publicité sans froid faite par l'équipe Canada que je vais vous montrer. C'est une publicité faite pour la télévision, mais ce qu'on en ressort à l'audio est quand même très intéressant.
C'est vrai ce qu'ils ont dit. Que l'hiver nous définit. Que ce froid si mordant parfois fait partie de notre identité. Il durcit notre volonté. Et le vent des glaces forge notre caractère. À Rio, dans l'adversité des Jeux, sans jamais douter, on y croit. Avec le feu dans les yeux et tout notre sang-froid.
Et tout le monde y croit, ça donne envie d'y croire en tout cas. C'est vraiment une publicité exceptionnelle. On se croirait dans un jeu, dans un film hollywoodien. Nos athlètes, on dirait des guerriers. Puis moi, j'ai envie de faire tout ce que je veux pour qu'ils gagnent la guerre. Mais c'est pas une guerre, Francis?
On te dit film hollywoodien, on se croirait dans un thriller de film d'horreur ou une publicité de jeux vidéo.
Oui, absolument, oui.
C'est incroyable.
Mais là, je me sens tellement patriote après avoir écouté cette publicité-là. Les Canadiens, on a le sang-froid.
Mais le patriotisme, ça va aussi jusque dans les médias sociaux. Tout à l'heure, en ouvrant mon application Facebook, Facebook m'a proposé de mettre une bannière sur ma photo de profil pour dire à tout le monde que je supporte l'équipe du Canada. Mais je vous dis, là, j'avais aussi le choix de supporter n'importe quel autre pays. Là, il y avait la liste des pays qui étaient disponibles. Mais je me demandais, toi, Daniel, est-ce que tu sais si ça, la participation, disons, de Facebook, parce que veux pas, Facebook parle, nous invite à être patriotiques avec notre pays, mais Facebook n'est pas un pays, Facebook appartient aux États-Unis. Comment est-ce que tu vois ça, toi?
En fait, Facebook le propose souvent pour tout genre d'événements internationaux. Il l'avait fait, entre autres, pour l'Euro 2016 récemment. Il l'avait fait à la Coupe du Monde également. Mm-hmm. Ils le font pour les Jeux Olympiques. En fait, c'est plus pour... c'est pas pourquoi nécessairement Facebook fait ça. Je sais qu'ils le font systématiquement pour les grandes compétitions internationales, particulièrement les compétitions sportives. Mm-hmm. Ça doit être dans une dynamique d'un certain patriotisme pour appeler les gens à faire des clics.
Oui, peut-être que le patriotisme aussi fait cliquer, mais ça doit être ça.
Ça doit être ça. Et aussi, juste pour faire une petite parenthèse sur la publicité qu'on a entendue avant, il y a même des caribous puis des ours polaires là, dans la publicité télé, mm-hmm. là, si vous la regardez. Là, fait que ça fait, vous voyez Jennifer Abel marcher avec un caribou, là, donc ça fait encore plus canadien.
Ouais.
Mais pour ce qui est de Facebook, ça doit être parce que les gens vont sûrement adhérer à ce mouvement-là.
C'est
ça
des données pour ça.
Probablement des données aussi. Puis c'est les gens adhèrent à un mouvement qui leur transcende. Puis la population en général aime ça, se sentir plus gros que notre petit monde, notre petit moment.
Puis j'imagine que pour vous, à Équipe Canada, ça vous fait pas de mal que Facebook vous donne un coup de pouce?
On est 100% correct avec ça.
Mais Facebook profite, comme il y a un gros hype qui est créé autour des Jeux olympiques, puis tu parlais de l'euro aussi tantôt. Fait que Facebook veut juste s'inscrire dans ces événements-là, mm-hmm. pour qu'on utilise Facebook, puis que, tu sais, c'est bon pour Facebook aussi. Là.
Mais il y a aussi une volonté pour Facebook de devenir le canal d'absolument tout. Mm-hmm. Et sur l'application mobile, t'as pas besoin de sortir de Facebook pour naviguer sur Internet.
Ouais, ouais.
C'est juste... Ils veulent être
le média le plus populaire au monde.
Le canal de tout.
C'est ça.
Même Facebook Live, c'est ça. T'sais, encore hier, mettons, je donne un exemple qui n'a rien à voir avec les Jeux Olympiques, mais Wayne Rooney faisait son match pour la Fondation contre Everton, puis le match était diffusé sur Facebook Live. C'est mm-hmm. un match de soccer à Manchester, puis tout le monde pouvait l'écouter à travers le monde sur Facebook Live. Donc, c'est le genre de programme que Facebook veut probablement mm-hmm. développer à l'avenir.
Bon, mais c'est tout le temps qu'on avait à l'émission. Je vous rappelle qu'on avait aujourd'hui Francis Terrien, Francis Huot, Émilie Roscanou et Daniel, excuse-moi, j'ai oublié ton nom de famille.
Loureiro,
qui a gracieusement accepté de participer. On se quitte en chanson avec The Magician de Andy Schauf.